ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Comme à la radio, votre émission de jazz sur RCF. Et oui, comme vous le savez peut-être désormais, Comme à la radio démarre chaque semaine par notre coup de cœur pour le plaisir de partager avec vous la joie d'écouter un morceau qui nous a plu par son originalité, par ce qu'il amène de frais, de convivial, de créatif pour découvrir une nouvelle génération ou un morceau oublié de l'histoire du jazz. Bref, une trouvaille que nous avons envie de partager avec vous pour le plaisir de célébrer la diversité du jazz, vous offrir ce qui nous rend heureux. Alors cette semaine, Alex, tu as choisi Laurent Koch.
Alors Laurent Koch, il est connu dans les milieux du jazz, mais pas tellement du grand public. C'est un pianiste qui a commencé l'étude du piano à 7 ans, avant d'entrer au Conservatoire National de Musique d'Aix-en-Provence à 10 ans, 3 ans plus tard, c'est pas mal. Il part ensuite à Paris, il étudie le jazz au Centre d'Information Musicale, il commence à jouer, à enregistrer, il part étudier à New York. Il fait des trios, il sort deux disques en fait, un live au Duc des Lombards qui a été Grand Prix Charles Cros. Mais finalement, il n'est pas, ce que je vous disais tout à l'heure, très connu du grand public. Et le critique de jazz Michel Conta dit de lui, si la scène française du jazz est passionnante aujourd'hui, elle le doit pour une bonne part au pianiste Laurent Koch. Et effectivement, il s'est beaucoup engagé sur l'état du jazz en France, mais ceci mériterait une autre émission. Contentons-nous d'écouter et de se régaler avec Laurent Koch.
Laurent Koch, Momentum, coup de cœur d'Alex cette semaine.
Eh oui! Et aujourd'hui, comme à la radio, célèbre un anniversaire pas comme les autres, Laurent.
Eh oui, voici 100 ans, le 10 octobre 1917, naissait l'une des personnalités les plus fortes et les plus énigmatiques de l'histoire du jazz, le pianiste Thelonious Monk. Personnalité forte parce qu'il a marqué l'histoire du jazz par l'originalité de ses mélodies, de ses approches rythmiques et harmoniques. Personnalité énigmatique parce que c'était un grand solitaire, une personnalité fermée, parfois incompréhensible, proche de l'autisme. Et en même temps, un musicien capable de partager sa musique avec d'autres, que ce soit des génies comme lui, de Charlie Parker à John Coltrane, en passant par Miles Davis et bien d'autres, ou des musiciens plus discrets mais parfaitement adaptés à son approche musicale, comme ceux de son quartet. En particulier, le saxophoniste Charlie Rose, avec qui la complémentarité fut totale. Énigmatique, Monk, également, par la fin de son histoire. Un jour, il a refermé le clavier de son piano et ne l'a plus jamais touché. Alors, pour se mettre le son de Monk dans l'oreille, on écoute sa composition la plus célèbre, un chef-d'œuvre inaltérable. Il s'agit de Round About Midnight. Il l'avait écrite dès l'âge de 19 ans, en 1936, avant qu'il soit enregistré par Cootie Williams en 1944, puis remodelé en 1946 par Dizzy Gillespie, dans la forme que l'on a connue par la suite. On écoute la version de 1947, où Monk est en compagnie de musiciens moins connus, à l'exception du batteur Art Blakey, Round About Midnight.
Monk, un monstre sacré de l'histoire du jazz, mais son histoire personnelle est mouvementée, Laurent, comme celle de beaucoup de musiciens de jazz d'ailleurs.
Et oui, tout commence, comme souvent pour les musiciens de jazz, par l'église, se poursuit par la drogue et se termine par la folie. Autodidacte, Monk accompagne sa mère à l'harmonium, à l'église à l'âge de 12 ans, puis accompagne les tournées d'un évangéliste. Et c'est à 25 ans qu'il commence à se faire connaître et attire l'attention des grands noms du moment, comme Dizzy Gillespie, Bud Powell ou Charlie Parker, intrigués par l'originalité de son style. Donc après avoir travaillé un moment avec Coleman Hawkins, il enregistre pour la première fois sous son propre nom en 47 pour Blue Note. Mais en 51, la police découvre du cannabis dans la voiture qu'il occupe avec Bud Powell. Monk refuse de dénoncer son ami et perd sa carte de musicien professionnel sur New York. Il ne peut plus jouer en club, il compose et enregistre pour Blue Note, puis pour Prestige. Il participe à des albums de Sonny Rollins, Art Blakey, Miles Davis, et en 54, il vient pour la première fois en Europe où il rencontre la baronne Panonica de Königswalter, cousine des Rothschild et grande mécène des musiciens de jazz, qui jouera un rôle important dans la vie de Monk. Donc le style du pianiste et l'originalité de ses compositions déconcertent les musiciens, mais surtout le public qui le boude. Monk arrive chez Riverside, adulé par les musiciens et ignoré par le public. Donc c'est en général une situation qui ne plaît pas beaucoup aux producteurs de musique. Pour reconquérir ce public, on lui fait enregistrer un album de standard et un disque basé intégralement sur les compositions de Duke Ellington. Monk parvient ensuite à enregistrer un album de compositions personnelles qui s'appelle Brilliant Corners, et dans un morceau plein de fantaisie et d'énergie, Monk y revisite le blues, comme on dit aujourd'hui, revisiter, c'est un mot à la mode, avec un morceau qui s'appelle Bemsha Swing. Il est accompagné, excusez du peu, de Sonny Rollins, Oscar Pettiford, Max Roach. Bemsha Swing. We'll be right back.
Et oui, vous êtes sur RCF, vous écoutez votre émission de jazz comme à la radio. Et comme il y a 100 ans, naissait le copain de la baronne Panonica, Laurent a décidé de nous raconter un petit peu l'histoire d'une des personnalités les plus fortes et les plus énigmatiques de l'histoire du jazz, le pianiste Thelonious Monk. Et Laurent, à partir de cette fin des années 50, Thelonious Monk est devenu si important dans la culture même du jazz qu'il devient incontournable.
Et oui, et en 59, donc, il récupère enfin sa carte de musicien qui lui permet de jouer à nouveau dans les clubs de New York. Il se produit alors régulièrement au Five Spot Café, en quartet, où figure régulièrement le jeune saxophoniste qui monte, un certain John Coltrane. Le saxophoniste vient d'être renvoyé du quintet historique de Miles Davis à cause de son addiction à la drogue. Les deux musiciens, peut-être les plus inventifs et iconoclastes de toute l'histoire du jazz, vont repousser les limites du possible et créer leur propre univers. Miles Davis dira de cet assemblage « Il faut être Coltrane pour jouer avec Monk, tout cet espace, ces trucs disloqués qu'il jouait. » Et Coltrane ajoutera « Jouer avec Monk, ça vous donne l'impression de tomber dans une cage d'ascenseur. » Après le Five Spot, le groupe se produit au Carnegie Hall et enregistre un album superbe paru en 61. Alors on va retrouver ces deux génies du jazz en compagnie de Wilbur Ware à la contrebasse et Shadow Wilson à la batterie dans une des compositions les plus personnelles de Thelonious Monk, ça s'appelle Trinkle Tinkle.
I'm
Oh, on a du mal à parler après une telle beauté de thème, d'improvisation, de folie, de précision dans Twinkle Twinkle avec Coltrane et Monk. Et donc, sur cette histoire de ce génie du piano qui est Thelonious Monk, on a une fin aussi singulière que l'a été sa vie et sa musique.
Et oui, en 71, Monk enregistre son dernier album avec notamment Art Blakey et Dizzy Gillespie. Il fait aussi quelques concerts cette année-là et les années qui suivent, notamment au Village Vanguard. Il joue pour la dernière fois en 75 en compagnie de son fils, Thelonious Sphere Monk III. Et à partir de 76, il se retire chez la baronne Panonica sans toucher au piano et presque sans parler. C'est là qu'il meurt d'une attaque cérébrale le 17 février 82. Le comportement de Monk est souvent aussi étrange que sa musique, et si tous les immenses musiciens qui ont joué à ses côtés ont considéré que c'était une expérience très enrichissante mais aussi déroutante, c'est finalement avec des musiciens d'un peu moins grande envergure que Monk avait trouvé un équilibre durant ses dernières années d'activité. Il jouait en quartet avec le saxophoniste Charlie Rose, qui avait su s'adapter à merveille, avec talent et humilité, aux soubresauts et aux coups de folie du maître. C'est avec ce quartet que nous allons donc terminer cette émission consacrée à ce pianiste aussi énigmatique que génial. On écoute l'une de ses compositions les plus célèbres, Well You Needn't, enregistrée en live à Stockholm en 61.
Comme à la radio et de RCF, vous avez écouté aujourd'hui l'émission de jazz sur la vie et l'œuvre de Thelonious Monk grâce à Laurent. Merci Laurent et au revoir amis auditrices, au revoir amis auditeurs et à très vite. Thank you.
Thank you.